œil.
À la une, cette question, faut-il faire payer l'entrée du Marae de Raiatea ? Ce débat aussi sur les lois nationales concernant les soins palliatifs et la fin de vie. Les élus et les conseillers sont plutôt contre. Et enfin, le grand salon de la rentrée s'ouvre demain avec quelques nouveautés. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabreau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc avec cette question. Faut-il faire payer l'entrée du Marae à Raiatea ?
Eh oui, 8 ans que le Marae Taputapuatea est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, on cherche de l'argent pour financer les aménagements faits depuis 2017. Une réflexion est en cours sur un nouveau plan de gestion et sur la mise en place d'une nouvelle structure pour gérer le site. Les explications du responsable de la cellule patrimoine culturel de la DCP, Anna.
L'idée, c'est quand même d'élargir un peu le spectre de gestion et pourquoi pas en fait étudier l'opportunité de création d'une entité capable de percevoir des revenus pour assurer le financement de l'activité de gestion du site. Mais en tout cas, réfléchir sur la forme juridique et économique que pourrait avoir cette structure-là pour justement commencer peut-être aujourd'hui à essayer d'une certaine manière de rentabiliser les investissements qui ont été lancés depuis 2017.
Et quand on parle d'investissement, on pense à la lutte contre les espèces envahissantes, l'aménagement de sentiers, la rédaction et la pose de panneaux explicatifs, la création d'une visite virtuelle ou encore toute la partie recherche et fouille. Tout ça se paye évidemment pour Anatawari Tamari. La culture ne peut pas rester un investissement à perte. La mise en place d'une structure capable de percevoir des revenus, toutes sortes de revenus d'ailleurs, serait une première étape avant peut-être de faire payer l'entrée sur le site de 9000 visiteurs par an. Taputapuatea on accueille aujourd'hui 50 000 chaque année, de quoi effectivement aider à financer les projets. Il s'agit de continuer à développer l'économie autour du site, mais tout en le préservant, un équilibre délicat à trouver.
Les points forts identifiés par l'inscription, oui, c'est la fréquentation. Ce sont des paquebots de plus en plus nombreux avec un point d'ancrage à Outouroi. C'est un effet positif sur l'impact économique touristique. Oui, il y a bien entendu un impact réel et une attente forte aussi vis-à-vis du projet d'aménagement engagé par le pays. Parce que justement, c'est ce projet d'aménagement qui va contribuer à augmenter certes encore le nombre de visiteurs sur le site, mais également à cadrer. Parce que l'objectif de la classement UNESCO, c'est pas non plus d'arriver à un surtourisme, mais bien de préserver finalement l'intégrité et de trouver une certaine forme de balance entre la préservation du patrimoine et le développement économique du lieu.
Et puis aux Marquises, on a fêté les 1 an de classement à l'UNESCO.
1 an effectivement que l'ensemble culturel et naturel de la Terre des Hommes est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première réunion du comité de gestion doit avoir lieu en septembre.
On peut nous reprocher en fait le fait que ça ait pris du temps, mais c'est également comme ça qu'on avance sereinement, c'est-à-dire en concertation avec les populations locales, parce qu'il faut comprendre quand même que le classement des îles Marquises, c'est quand même 6 îles habitées qui sont concernées, donc ça prend un peu de temps pour organiser tout ça, mais c'est en cours.
Et là-bas également, il faut penser développement économique et préservation. Une chose est sûre, l'UNESCO permet à la Polynésie de rayonner dans le monde.
À partir du moment où on a un site qui est inscrit, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a cette forme de reconnaissance internationale qui permet justement de mettre le site en question sur le même niveau d'égalité que les pyramides égyptiennes, que le Machu Picchu, que l'ensemble des sites finalement emblématiques, caractéristiques de notre humanité. Et donc bien évidemment qu'il y a une visibilité accrue du pays dans lequel se trouvent ces sites exceptionnels.
Ils attirent les touristes mais aussi les locaux et puis ils permettent d'approfondir encore et encore nos connaissances de la culture polynésienne.
Vous écoutez le journal de la rédaction et on continue avec ce débat sur les lois nationales concernant les soins palliatifs et l'aide à mourir, bientôt devant le Sénat à Paris.
Elles ont été adoptées à l'Assemblée nationale et doivent donc passer effectivement devant le Sénat dans quelques mois. Ces lois vont permettre à des personnes souffrant de maladies incurables et graves, confrontées à des souffrances physiques ou psychologiques constantes, d'avoir accès au suicide assisté ou à l'euthanasie. Et il est possible que ces dispositions soient étendues à la Polynésie française, une possibilité qui ne plaît pas vraiment à tout le monde. À l'Assemblée, une proposition de résolution portée par le Tavini demande que ça ne soit pas étendu aux Fénois tant qu'une large consultation citoyenne n'a pas été organisée. L'exposé des motifs de cette résolution dénonce à la fois le fond et la forme, un empiètement sans consultation préalable sur les compétences en santé publique du pays et une possible menace sur les fondements culturels, éthiques et sanitaires du territoire. Et mardi, la commission de la santé s'est montrée favorable à cette résolution. Seul Théavé Chomette, élu à Hérée Yaporinetia a voté contre. Elle reproche aux membres de la commission un biais religieux teinté d'électoralisme. On l'écoute.
Moi, j'ai voté contre. Je ne veux pas qu'il y ait d'attaque à cette application localement. Cette loi dit qu'on est libre de décider. Alors, on ne peut pas faire mieux pour moi. On n'oblige personne. On laisse le libre arbitre. Et c'est ce que je veux. Et en fait, moi, je trouve qu'il complique quelque chose de simple. Les gens sont libres. Alors, on parle de malades. Les malades qui souffrent ont le droit de choisir leur mort. Je n'ai pas voté la peine de mort hier. Hein. J'ai voté le libre arbitre.
Voilà, si elle parle de peine de mort, c'est que les raccourcis sont faciles dans ce débat. Une autre représentante a également réagi. Irina Moeura Morgan-Cross regrette le mélange de genre de Teremura Kuhumuitini Rurua. C'est elle, la rapporteuse du texte.
C'est un sujet quand même qui mérite beaucoup d'échanges. Et on a une élue complètement fermée et qui, en fait, au final, ne connaissait même pas le texte national. Elle faisait que dire, nous, on veut décider pour nous. C'est pas à la France à nous dire. C'est encore, je l'entends, mais c'est encore un fonds de commerce. L'aide à mourir, c'est une liberté, c'est quelque chose qui pourrait fondamentalement changer la fin de vie de nos Polynésiens, amener un peu de la dignité humaine. Donc l'indépendance n'a rien à faire dedans.
Et cette résolution doit maintenant être présentée en séance à l'Assemblée. Aucune date n'a été donnée. Il faut rappeler que les résolutions de Tarahoy sont rarement prises en compte à Paris.
Et le CESEC, à son tour, va s'exprimer.
Il donnera son avis sur ces lois en séance plénière demain. La commission s'est réunie hier et semblait déjà s'acheminer vers un avis défavorable. Pour Patrick Galnon, l'accès aux soins palliatifs pose la question du financement. Comment faire pour des patients dans les îles, par exemple? Et concernant l'aide à mourir, il explique que le droit à une sédation profonde et continue est déjà présent dans la loi Claes Leonetti de 2016 et que c'est suffisant. La population semble être par contre en contradiction avec ses représentants, que ce soit les élus ou les conseillers du CESEC sur ce sujet de la fin de vie. Une consultation numérique avait été lancée par le Conseil économique et social et ce sont plus de 80% des participants qui se sont déclarés favorables à ces lois.
Dans le reste de l'actualité, l'ex-compagnon de Naïma Temari s'est fait entendre.
Oui, rappelez-vous, au moment de l'annonce du départ de la ministre des Sports du gouvernement, des journalistes avaient laissé entendre un problème d'AIS concernant directement son ex-compagnon. Le président du pays avait dit ne pas connaître la vie privée de ses ministres. Eh bien, ce fameux ex-compagnon est sorti de l'anonymat. Heirani Matapo a réagi. Il a fait parvenir un courrier aux médias souhaitant, je cite, « rétablir son honneur ». Son avocat écrit qu'il n'a jamais été impliqué ou inquiété dans une affaire d'AIS ou de stupéfiants, quelle qu'elle soit, qu'il ne s'agit là que de pure diffamation et que bien au contraire, Heirani Matapo est impliqué dans les milieux sportifs ou associatifs et il a toujours combattu ce fléau.
Et puis cette commémoration aussi, Hiroshima, c'était il y a 80 ans.
Et plusieurs élus tavunis sont venus commémorer cette date au mémorial des essais nucléaires du parc Paofei. Hina Moeura, Morgan Cross, Tematei et Béatrice Le Gaillic, Élise Vanna et Félix Tétoua notamment étaient là. Ils ont déposé des gerbes et des couronnes en l'honneur de toutes les victimes du nucléaire.
Dans la démarche des Japonais qui est très résiliente et ils ont réussi à tourner ce moment d'horreur qu'a été Hiroshima et Nagasaki en un message de paix en disant après ce qui nous est arrivé, on ne veut pas que ça arrive à d'autres. Et malgré le fait que eux, c'était en temps de guerre, ce qu'ils incluent toutes les personnes qui, d'une certaine manière, aussi ont été touchées par l'expérimentation des armes nucléaires dans le monde, dans nous aussi. Donc, en fait, le terme Hibakusha, qui est survivant, s'applique aussi, on pourrait dire, nous sommes les Hibakusha de la Polynésie française.
Voilà, vous aurez reconnu Hina Moeura Morgan-Cross qui était au micro de Caroline Perdry.
Le salon de la rentrée des sports et des loisirs ouvre ses portes demain.
Et ça va durer 4 jours. Une centaine d'exposants seront réunis au parc expo de Mumho. Shopping, sport, éducation, culture, les stands habituels avec les animations et démonstrations toujours nombreuses. De quoi faire essayer du sport à vos enfants et voir si ça leur plaît. Et il y aura aussi quelques nouveautés cette année, comme l'explique Heyari Vahapata de DB Tahiti qui organise le salon.
Original, oui, je mettrai en avant une école de musique électronique, justement. Créer sa musique électronique avec des machines. Il y en a une autre, c'est qui sont là pour faire du cosplay, apprendre à faire son costume cosplay. Après le bac, si ceux qui veulent apprendre les métiers de la mer, ben, il y a un centre de formation qui est là, qui va présenter tous les métiers de la mer qu'on propose ici en Polynésie.
Des animations auront lieu chaque jour de 9h à 16h30 et puis ce week-end deux grosses animations sont prévues, un atelier de Kuduro Feed Dance le samedi après-midi et du Ori Tahiti le dimanche, c'est donc sur le Parc Expo de Mumho pendant les 4 prochains jours.
Et on finit à la presqu'île, on a eu du beau spectacle hier.
Et oui, Météo France avait mis quasiment tout le territoire excepté les Marquises en alerte orange pour les vagues et submersion et le Haut Commissariat avait invité à éviter de prendre fond de la mer. Mais les surfeurs étaient évidemment sur l'eau. Des vagues de 4 à 6 mètres ont déferlé hier à Tehuapo. Et on a eu quelques frayeurs avec cette grosse chute de Michel Bourès qui a été transporté à l'hôpital. Mais tout va bien. Plus de peur que de mal, a-t-il dit sur ses réseaux. Il s'en sort avec des points de suture sur la lèvre. Et toutes les photos de cette grosse session sont sur radio1.pf. Et nous sommes toujours en alerte orange. Mais la houle devrait baisser dans la journée et peut-être arriver à des conditions idéales pour l'épreuve de la WSL. La Tahiti Pro pourrait être on dès demain. 5 Polynésiens sont engagés sur la compétition. Vahine Fiero, Kelia Galina, Kaolivas, Mihimana Brai et Teiva Teiroa. Nous les suivrons bien sûr attentivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, c'est la météo sur Radio.